VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité ici aux États-Unis. L'ouragan Irma, qui continue de frapper le nord de la Floride, état du sud-est du pays, vient d'être rétrogradé en tempête tropicale. Même si la force de ses rafales de vent reste proche de celle d'un ouragan, avec une vitesse allant jusqu'à 110 km à l'heure. Plus de 5 millions de Floridiens sont sans électricité à cause des dégâts dus à Irma. Mais il y a eu heureusement peu de victimes, nous dit le docteur Yves Renaud, qui s'est réfugié dans la ville de Saint-Pétersbourg, dans le nord de la Floride.
On n'a pas eu de rapport à Miami qu'il y a eu des pertes en vie humaine. Mais sur la côte ouest de la Floride, il y a eu malheureusement 3 policiers qui emmenaient des prisonniers en sécurité. Le policier et une aide, je crois qu'ils ont perdu leur vie malheureusement dans un accident de voiture. C'est ce qui a déploré pour l'instant 3 pertes de vie humaine.
Le docteur Yves Renaud à Saint-Pétersbourg en Floride. Et États-Unis toujours, commémoration aujourd'hui des attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New York et à Washington. Il y a eu tout d'abord une cérémonie avec le président Donald Trump à la Maison-Blanche à 8h40 heure locale, midi 40 temps universel, l'heure à laquelle le premier des 4 avions détournés par les terroristes d'Al-Qaïda s'est écrasé sur une des 2 tours du World Trade Center à New York. La seconde des tours ayant été atteinte 23 minutes plus tard par un second appareil détourné. Deuxième étape des commémorations pour le président Trump, une visite au Pentagone, attaqué lui aussi le 11 septembre et endommagé par un troisième avion détourné. Le quatrième appareil s'est écrasé lui à Shanksville en Pennsylvanie où est attendu le vice-président Mike Pence. À Afrique maintenant, au Sénégal, l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade, l'un des principaux opposants au président Macky Sall, a annoncé aujourd'hui dans une lettre ouverte, publiée ce lundi par la presse sénégalaise, qu'il renonçait à siéger à l'Assemblée nationale où il a été élu le 30 juillet. « Je m'étais présenté à la compétition uniquement pour soutenir mon parti, le Parti démocratique sénégalais et notre coalition », a expliqué l'ancien président dans sa lettre. Selon les analystes, l'ex-président de 91 ans, qui a dirigé le Sénégal de 2000 à 2012, cherchait à obtenir une majorité à l'Assemblée nationale pour l'opposition. Afin d'obtenir une amnistie pour son fils et ancien ministre, Karim Wade, condamné en 2015 à 6 ans de prison pour enrichissement illicite. Objectif, lever toute hypothèque sur l'éligibilité de son fils à l'approche de la présidentielle de 2019. Finalement, la liste d'Abdoulaye Wade a remporté 19 sièges de députés seulement sur un total de 165 et face à une opposition divisée, celle de la coalition soutenant le président Macky Sall en a gagné 125. Pour sa part, Karim Wade, gracié en juin 2016 par le président Macky Sall, réside depuis lors à l'étranger. Au Bénin, les autorités béninoises appellent à la mobilisation pour faire face au débordement de certains fleuves traversant le pays. C'est le cas du fleuve Niger, dont les eaux montent du fait de fortes pluies en amont au Niger et au Mali depuis le mois de juin. Timothée Donagmaï a joint Inoussa Dankakoé, maire de la commune de Malanville, dans le nord du Bénin.
Ce n'est pas seulement notre ville. Nous avons au moins 70 km de long par rapport au fleuve et des mesures sont déjà prises avec la plateforme de réduction de risque de catastrophe naturelle que nous avons déjà mise en place au niveau communal, au niveau du département de l'Alvorie. Le préfet lui-même a fait le déplacement pour s'enquérir de tout ce que nous avons eu à faire. Des équipes sont à pied d'œuvre et beaucoup de gens qui se situent sur les berges du fleuve sont délogés pour être relogés sur des sites très viabilisés. Les premiers soins sont apportés à tous ceux qui sont inondés déjà et ceux qui le seront, on a prévu de les mettre loin du fleuve.
Inoussa Dankakoé, maire de la commune de Malanville, dans le nord du Bénin. Au Nigeria, 35 personnes sont mortes du choléra dans le nord-est du pays, touchées par une épidémie de cette maladie infectieuse, selon un nouveau bilan du ministère de la Santé de l'État de Borno dimanche. Le nombre des morts s'élève à 35 sur un total de 1283 cas de choléra. La plupart des décès et des cas de la maladie ont été enregistrés dans le camp de déplacés Garajmuna, dans la banlieue de Maïdougouri, chef-lieu de l'État de Borno. Le camp abrite quelques 20 000 personnes ayant fui les exactions du groupe djihadiste nigérian Boko Haram.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, seuls 10% des enfants possèdent un acte de naissance dans la province du Nord Kivu, dans l'est du pays, selon un tout récent rapport de l'UNICEF. Une campagne a été lancée en collaboration avec la justice congolaise pour donner des jugements supplétifs à ces enfants, notamment ceux qui sont nés de viol, les orphelins de guerre et les ex-enfants soldats recrutés de force par les groupes armés. Plus de 1300 enfants recensés par l'UNICEF ont bénéficié de ce document important dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Au reportage de notre correspondant sur place, Charlie Kasereka.
Parmi eux, il y a des ex-enfants soldats, un phénomène très courant dans cette région qui regorge de plus d'une dizaine de groupes armés et qui recrute souvent par mode d'enlèvement. Patrick, un pseudo donné à ce jeune homme de 16 ans pour sa protection, il est parmi ces enfants victimes, forcé de participer aux activités criminelles de la rébellion rwandaise des FDLR. Aujourd'hui, il a d'autres orientations comme il vient de recevoir son document qui approuve sa nationalité congolaise. Il veut surtout continuer avec ses études.
Quand tu arrives dans ce groupe, on te donne directement un autre nom. J'ai été recruté de force dans la rébellion de FDLR. J'y ai passé 4 années, j'ai été blessé par balle sur mon œil. J'ai maintenant 16 ans et je veux continuer avec mes études et je pense que ce document m'aide pour prouver ma nationalité congolaise.
L'Organisation des Nations Unies pour la protection de l'enfance, UNICEF RDC, qui a facilité ces audiences et qui assure l'intégration sociale de ces enfants, se félicite et veut continuer pour aider plus d'enfants dans la même situation. Monsieur Île-de-France est administrateur protection de l'enfance zone est de la RDC pour UNICEF.
Pour le Nord Kivu, l'enquête qui a eu lieu en 2012-2013 a démontré effectivement qu'il n'y a que 7% des enfants du Nord Kivu qui avaient leurs actes de naissance. C'est un taux très très bas. Et donc, il faut effectivement qu'on puisse mettre en place des dispositifs qui leur permettent d'avoir des actes de naissance après les 90 jours qui sont prévus par la loi.
La cause principale de cette situation reste l'ignorance des parents, mais surtout la situation des conflits dans ces vastes territoires situés à plus de 75 km au nord de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Le président du tribunal de paix de Rutshuru explique.
Depuis l'installation du tribunal en 2013 après la guerre du M23, les parents se sont plaints qu'ils manquent les actes de l'état civil. Les enfants qui viennent de bénéficier des actes de l'état civil aujourd'hui de naissance, ils sont au nombre de 1600. Oui, les enfants qui mangent entre 0 à 17 ans. Et c'est le travail qui vient de commencer. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de guerres ici aujourd'hui à répétition.
La guerre, le chômage et l'absence de l'autorité de l'État dans certains coins de ces territoires a changé les modes de vie. Marie-Jeanne n'a pas revu son jeune garçon kidnappé depuis 4 ans maintenant, alors que la famille avait payé la rançon demandée par les ravisseurs.
On avait donné la rançon demandée, mais 4 ans aujourd'hui, sans aucune nouvelle de mon fils. La situation a changé avec le phénomène kidnapping de voyageurs. Le mauvais état de la route, il n'y a plus de clients et beaucoup de gens ont abandonné leur champ suite à l'insécurité.
Le mauvais état de la route sur la nationale numéro 2 vient encore intensifier les problèmes et ne facilite pas les affaires pour se vendre à la sauvette. Charlie Kasereka, depuis le territoire de Rutshuru, pour VOA Afrique.
Conflit en Irak maintenant. Les autorités irakiennes ont annoncé dimanche avoir placé dans un camp plus de 1300 femmes et enfants étrangers en attendant leur rapatriement. Il s'agit, selon Bagdad, de membres de familles de militants présumés du groupe État islamique. Timothée Donangmaï.
Originaires pour la plupart de Russie, de Turquie et de pays d'Asie centrale, de même que certains pays occidentaux, ces femmes et enfants s'étaient rendus aux forces kurdes le mois dernier après que les troupes irakiennes ont chassé le groupe État islamique de la ville septentrionale de Tar Aftar, près de Mossoul. Soupçonnés d'être des combattants islamistes, les hommes qui étaient en leur compagnie ont été, eux, envoyés dans des centres de détention. Première étape de l'opération de rapatriement, la vérification de la nationalité des femmes et des enfants. Une opération difficile puisque plusieurs ne sont plus en possession de leur passeport ou document de voyage. Les autorités irakiennes doivent rapidement clarifier leurs intentions au sujet de ces personnes, a fait savoir le Conseil norvégien pour les réfugiés qui soutient 541 des femmes et leurs enfants. tout comme les personnes fuyant les conflits, ces femmes et leurs enfants doivent impérativement avoir accès à la protection, l'assistance et l'information, a souligné l'ONG qui estime que leur situation actuelle équivaut à une détention de fait.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.